autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs et auditrices, en cette saison de rediffusion estivale pour réécouter une parole rare, percutante et engagée, celle du prix Nobel de littérature nigérian Wole Soyinka. Signataire, début avril dernier, avec Centre intellectuel du continent et de la diaspora, d'une lettre ouverte aux dirigeants africains en temps de pandémie, les appelant à gouverner enfin avec compassion, à voir dans cette crise universelle du Covid-19 comme une opportunité pour changer radicalement de direction. Il nous a semblé important de réentendre cette parole libre, souvent radicale et surtout formidablement inspirante de Wole Soyinka, car elle nous concerne tous. Comment se saisir de ce qui nous arrive pour faire autrement, pour revoir nos priorités, pour lâcher enfin le pouvoir ou l'argent pour l'humain et ouvrir d'autres possibles ensemble. C'est cette aspiration-là que nous avions partagée autour de Wole Soyinka le 29 avril dernier, en compagnie du sociologue et anthropologue Mahamadou Lamine Sagna, qui était en direct par téléphone avec nous depuis Yola au Nigeria, et du juriste Lionel Zevounou, initiateur de cette lettre ouverte, signée entre autres par le vénérable et mythique écrivain Cheikh Hamidou Kane, comme par les penseurs de Black Lives Matter, Cornel West, ainsi que par les chercheurs en sciences humaines et sociales les plus pointus d'Afrique et de la diaspora. Autour de la question, pourquoi écouter Wole Soyinka et les penseurs du continent? Bienvenue pour partager ce qui pourrait presque se résumer par cette phrase, extraite du long entretien que nous a accordé en exclusivité en version originale Wole Soyinka.
To see this opportunity being used to call leadership to order, to say to them, let this not be another waste. Let's get something positive out of this universal disaster.
C'est le moment, hein, nous disait Wole Soyinka, de saisir cette opportunité pour rappeler nos dirigeants à l'ordre, pour leur dire faisons en sorte que tout cela ne soit pas encore un autre gâchis. Tirons quelque chose de positif de ce désastre universel. Nous allons retrouver bien plus longuement Wole Soyinka, le premier prix Nobel africain de littérature, extraordinaire écrivain, poète nigérian, toujours aussi rebelle et engagé à 86 ans. C'est une parole rare et précieuse et c'est grâce à vous que nous pouvons la partager. Mahamadou Lamine Sagna, bonjour.
Oui, bonjour Caroline, merci de me voir.
Ah, merci, merci à vous, merci d'être en direct avec nous depuis la ville de Yola, donc à l'est du Nigeria, où vous êtes actuellement confiné, car vous enseignez, Lamine Sagna, à l'université américaine de Yola au Nigeria, après avoir enseigné pendant 10 ans à l'université de Princeton aux États-Unis. Vous êtes également chercheur au laboratoire du changement social et politique de l'université Paris 7 Diderot, car le sociologue, également économiste, anthropologue, diplômé d'ethnopsychiatrie, le chercheur singulier que vous êtes, auteur de travaux sur la monnaie, la mondialisation et les exclus, mais aussi et entre autres d'un ouvrage Violence, racisme et religion en Amérique autour de la pensée rebelle de Cornel West, paru aux éditions Karan, que vous avez accessoirement fondé. Alors entre parenthèses, Karan en mandingue, je l'ai appris, cela veut dire justement apprendre. Car j'oubliais de dire que le chercheur décidément inclassable que vous êtes, Lamine, parle couramment bon, le mandingue et le wolof. Vous êtes sénégalais, donc vous avez également le français dans vos valises, mais l'anglais, bien sûr, cela va sans dire, sans parler du créole, du portugais et de l'espagnol. Alors c'est aussi pour cela, peut-être, mais également parce que vous êtes très proche des plus éminents penseurs, chercheurs, artistes du continent, mais aussi de France et des États-Unis, hein, que vous avez pu mobiliser Wole Soyinka, que l'on va entendre tout au long de cette émission, le vénérable Cheikh Hamidou Kane, Cornel West aux États-Unis et tant d'autres. Vous pensez, Lamine Sagna, que, comme le disait à l'instant Wole Soyinka, le moment était vraiment venu de réunir, de faire entendre tous ces penseurs, toutes ces voix anglophones comme Soyinka, francophones, lusophones ou même arabophones, Lamine Sagna?
Oui, je pense que Wole a bien raison de dire que en ce moment de crise, en ce moment où on est dans l'incertitude totale, il était intéressant de rappeler à plus d'humanisme. Et pour cela, il était important que les intellectuels africains que vous avez bien cités, mais que beaucoup d'autres encore, je pense à Boubacar Boris Diop, je pense à Djibril Tamsignan, etc., ont accepté de signer cet appel qui est donné par, en fait, les amis Lionel et Ndongo Silla, Donc, je pense qu'il était important quand même pour de rappeler ça, puisqu'il faudrait gouverner avec compassion. Il faudrait quand même montrer que l'Afrique a des choses à donner et en même temps faire l'inventaire de nos penseurs, de ceux qui ont pensé l'Afrique et qu'on a parfois tendance à oublier, comme vous l'avez si bien rappelé, Cheikh Amadou Kane, mais je citerai Amadou Maktambo, par exemple, le Nouvel Ordre de l'Information, comme c'est comme s'il avait une vision sur comment, ce qui se passerait aujourd'hui, ou Cheikh Anta Diop, qui disait dans un article en 1981 que l'an 2000, ça sera la révolution de l'hydrogène. C'était visionnaire, n'est-ce pas? Donc c'était très important et je pense donc qu'il est nécessaire, dans ces moments d'incertitude, de voir comment on peut inviter les hommes d'État à un peu plus d'humanisme pour ceux qui n'en ont pas. Parce qu'il y a certains qui l'ont, mais nous savons également que parfois, même s'ils sont contrôlés par d'autres lobbies, par d'autres pouvoirs secrets, ils n'arrivent pas à mettre en œuvre ce qui est de l'attente des populations, c'est-à-dire penser à eux, la compassion.
C'est ça, la compassion fondamentale hein, dans cette lettre ouverte collective des intellectuels africains aux dirigeants du continent, que vous pouvez d'ailleurs lire en français et en anglais. Hein, le lien est sur notre site, sur notre page. Elle a été publiée dans de nombreux médias internationaux, en France, dans l'Humanité, dans Mediapart. Personnellement, hein, je trouve qu'elle n'a pas eu tout l'écho qu'elle mérite. Alors on est bien content de pouvoir vous la faire partager. Et c'est vous, Lionel Zevounou, qui l'avez donc initiée. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous par téléphone. Alors, vous êtes maître de conférences en droit public à Nanterre, où vous co-animez entre autres le séminaire Race, droit et sciences sociales hein, à l'EHESS. Et c'est donc vous, avec, comme le disait Lamine Sagna, le brillant économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla, avec la politologue Amine Yang de l'université du Witwatersrand en Afrique du Sud, donc tous les trois, qui avaient lancé ce formidable appel, réunissant donc à la fois, on ne peut pas tous les citer, ils sont 100, à la fois les plus célèbres écrivains du continent et de la diaspora, mais aussi de nombreuses chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales qu'on n'entend pas beaucoup, qui sont souvent discrets. Ça fait partie aussi de la force, je trouve, de cet appel. C'est qu'à côté des penseurs extraordinaires, des écrivains comme Ole Soyinka, il y a aussi tout un tas d'extraordinaires chercheuses et chercheuses qui pensent, qui ont des idées et qui veulent que ça bouge. Et profiter de ce moment-là pour que ça bouge, Lionel Zevounou.
Oui, oui. Effectivement, quand on a réfléchi avec Amine et Ndongo, on s'est dit à la base qu'est-ce qu'on pouvait faire en dépit de nos impuissances individuelles. Et la moindre des choses que nous pouvions faire, sans bien sûr être naïf, était de faire ce que tout intellectuel sait faire, à savoir appeler les dirigeants africains sur, ou plutôt les interpeller, sur la gestion de cette crise du Covid-19. Je l'ai dit et je crois qu'il est important de le répéter, nous ne sommes pas naïfs et nous ne croyons pas que cette interpellation va radicalement changer les choses du jour au lendemain. Mais il était nécessaire en tant qu'intellectuel de prendre nos responsabilités au sein de l'espace public. Le texte adressé aux dirigeants africains m'apparaît relativement consensuel au fond. Nous n'appelons pas à la révolution mondiale, au contraire, nous appelons à une prise de conscience collective devant la gravité de la situation. Et nous avons dès lors pris le parti de l'inclusivité en associant le maximum de collègues intéressés par ce texte et à chaque fois nous avons demandé de le faire circuler. Je pense pouvoir dire que le résultat est aujourd'hui globalement satisfaisant. Il y a longtemps qu'un texte aura rassemblé des universitaires anglophones, francophones, arabophones et lusophones. Et là est, je crois, l'originalité, comme vous l'avez dit, Caroline, de notre démarche. À quoi il faut ajouter qu'il s'agit aussi de collègues pour la plupart provenant de sciences sociales reconnues dans leurs domaines respectifs, que l'on entend peu dans les médias, certes, mais ces collègues n'en restent pas moins à l'écoute de l'actualité du continent et peuvent aussi apporter une voix différente de ce qui se dit généralement.
Autour de la question, justement, pourquoi écouter cet appel, cette lettre ouverte des penseurs, des chercheurs en sciences humaines et sociales du continent et de la diaspora hein, aux dirigeants africains, sans plus attendre, je propose d'écouter le premier signataire de cet appel, l'écrivain nigérian Ole Soyinka, prix Nobel de littérature en 1986, que j'ai pu joindre grâce à vous, Lamine Sagna, au téléphone. Je veux dire qu'il a tout de suite été partant pour soutenir, pour faire passer cet appel collectif. Ma première question, évidemment, a été de savoir s'il se portait bien pendant cette pandémie. Quelle était la situation dans sa ville natale, à Abeokuta, au sud-ouest du Nigeria, dans l'état d'Ogun, où il réside. Alors rappelons juste au passage qu'Abeokuta, au bord de la rivière Ogun, a été fondée en 1825 comme refuge contre les chasseurs d'esclaves. Tiens donc, c'est là aussi qu'est né le cousin de Wole Soyinka, Fela Ransom Kuti. Ils ont été très proches. Allez, on écoute tout de suite Wole Soyinka dont la présence, la puissance, l'humanité transparaissent, m'a touché. Vous allez l'entendre à chaque instant de cet entretien.
Personnellement, je vais bien. Je ne suis pas réellement confiné, mais les villes et les régions le sont au Nigeria. Aucun déplacement n'est autorisé en dehors de chez soi, sauf pour se rendre dans des endroits essentiels comme les hôpitaux. Mais tout est calme. Je vous parle depuis ma maison, l'enclave nommée Idjagba, c'est mon nom, située au milieu de la forêt près de la ville d'Abeokuta. C'est là que je vis, là où nous sommes en confinement, comme on dit maintenant, face à ce grand fléau. À part ça, tout est normal.
Wole Soyinka, vous êtes un écrivain et un homme engagé, vous avez connu la prison et l'exil, mais vous vous exprimez rarement aujourd'hui. Alors pourquoi avez-vous tout de suite accepté de signer cette lettre ouverte collective des intellectuels africains aux dirigeants du continent, et puis non seulement de la signer, mais aussi de la soutenir, de la défendre ici et maintenant sur RFI? Vous avez considéré qu'il y avait urgence en pleine pandémie, que le moment était venu de faire passer ce message-là aux dirigeants du continent?
Vous posez une immense question, très importante, une question historique qui est à la source même, aux racines même du dilemme du continent africain et de ses problèmes de gouvernance. Des questions qui ont occupé et affecté nombre d'entre nous toute notre vie. Du coup, cela a été très inspirant quand j'ai reçu cette lettre ouverte. De voir s'ouvrir un autre avenir, de penser une autre forme de gouvernance possible pour le continent par des dirigeants conscients, réfléchis, préoccupés et responsables.
In other words, a continuation of the work which my generation has been involved in on so many levels.
En d'autres mots, cela s'inscrivait totalement dans la continuité du travail pour lequel ma génération a été impliquée à tous les niveaux et qui a traversé toutes les frontières coloniales et post-coloniales. Réaliser que c'était le moment de saisir cette opportunité pour rappeler nos dirigeants à l'ordre, pour leur dire « faisons en sorte que tout cela ne soit pas un autre gâchis, tirons quelque chose de positif de ce désastre universel ». Pour moi, cela fait partie d'un processus continu, redynamisé par une génération très concernée et responsable.
Une nouvelle génération d'intellectuels, de chercheurs en sciences humaines et sociales qui sont effectivement concernés et surtout très sensibles à la question de la pauvreté chronique sur quasiment tout le continent africain. Il est temps de confronter les dirigeants à cette réalité, dites-vous. C'est comme si, Wole Soyinka, l'urgence de cette pandémie ne leur donnait plus le choix, les forçait à regarder enfin cette réalité que vous n'avez cessé de dénoncer.
Oui, c'est un continuing struggle.
Oui, c'est un combat en continu. Dans cette lettre qu'on m'a envoyée, j'ai reconnu tout de suite les mêmes inquiétudes au sujet du contexte de cette épidémie universelle qui pose un défi très spécifique au continent africain, comme on le voit aujourd'hui. Donc, j'ai eu immédiatement envie de participer à cet élan qui va bien au-delà d'un simple appel, qui est une exigence à reconnaître maintenant les besoins pratiques, pragmatiques, pour relever les défis existants. Voilà ce qui est soulevé dans cette lettre ouverte.
C'est une tempête tectonique, je vous cite, Wole Soyinka, qui devrait pousser les dirigeants du continent à un changement radical de direction, à gouverner enfin avec compassion. 60 ans après les indépendances africaines, comment pouvez-vous nous donner des pistes pour réinventer d'autres manières de gouverner à l'africaine ou d'autres manières de faire propres à chaque pays du continent?
Je ne vais pas utiliser l'expression « façon de faire africaine » car c'est une expression toujours sujette à débat. Cette expression a été corrompue par de nombreux dirigeants. Quelqu'un comme Mobutu avait sa façon de faire africaine, vous voyez? Idi Amin aussi avait sa façon africaine. Ils sont nombreux sur le continent africain. Regardez-les. Tous citeront toujours une façon africaine de faire les choses. Mais cela va plus loin que ça. Il faut explorer les possibilités que nous offrent toutes nos façons de vivre que nous avons totalement négligées. Un sens de la communauté, par exemple. La capacité de dire « d'accord pour aller jusqu'à un certain point, mais pas plus loin ». Un vrai sens de la responsabilité vis-à-vis de son voisinage en tant que membre de cette communauté. Ce sont des manières de faire spécifiques qui existent, mais qui ont été négligées et corrompues, et parfois délibérément récupérées par les dirigeants africains, simplement pour rester au pouvoir. Pour moi, cette lettre veut signifier à ces dirigeants, pourriez-vous, juste un moment, oublier le pouvoir et penser au peuple ? Cessez de penser aux prochaines élections et réfléchir plutôt à ce qui est vraiment essentiel pour que l'humanité, sur notre continent africain, soit un pilier de notre conception globale du monde. Regardez ce qui se passe en ce moment avec Museveni, qu'on a glorifié à une époque comme un leader révolutionnaire, conscient du risque d'abus de pouvoir, conscient de l'humanité de son peuple. Il est devenu encore un autre tyran. Comme Mugabe. Il persécute des artistes comme Bobby Wine. Il tue simplement pour rester au pouvoir. Cette lettre veut servir de déclic, de rappel à notre mémoire pour dire combien de temps encore allons-nous rester dans cette position, dans cette terrible disjonction entre les gouvernants et la population. Actuellement, le Covid, on le sait, est un phénomène mondial qui affecte toutes nos sociétés. Mais dans de nombreuses nations, il existe des infrastructures qui peuvent au moins soulager les souffrances causées par cette épidémie.
Oulé Choyinka, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que cette épidémie fait office de révélateur de certaines erreurs de développement du passé ?
Tenez, regardez mon Nigeria. Regardez ce que mon pays gagne avec le pétrole. Et regardez nos infrastructures. Demandez-vous combien d'hôpitaux nous avons, combien d'infrastructures, combien d'installations nous pourrions faire réquisitionner par l'État et convertir en centre de quarantaine. En termes d'infrastructures, nous sommes l'un des États les plus pauvres de la planète. Pourquoi en sommes-nous là ? C'est sur cela que porte notre lettre ouverte. Nous disons, au moins à partir d'aujourd'hui, maintenant que les conséquences de cette terrible négligence sont flagrantes, qu'allez-vous enfin faire de ça ? Voulez-vous saisir cette opportunité pour réfléchir à notre pleine et entière existence en tant que peuple et à votre existence à vous en particulier, en tant que dirigeant sur le continent africain ? Un continent qui porte une histoire d'esclavage, de colonisation, de néocolonisation, d'exploitation sans fin. Et si cet événement était le moment de vous poser pour enfin réfléchir et vous demander si vous n'avez pas trahi votre propre peuple, trahi votre propre humanité.
Wole Soyinka, l'écrivain, le poète, toujours aussi rebelle à 86 ans, vous voulez réagir à ces propos évidemment inspirants, secouants, Lamine Sagna, vous qui le connaissez bien, qui avait co-signé cet appel collectif au temps du Covid-19 des intellectuels africains aux dirigeants africains.
Oui, tout à fait. Je pense que Wole a touché les points fondamentaux, mais ça ne tente pas. Comme vous l'avez si bien indiqué, c'est le cousin de Fela, et donc c'est une famille qui vient... Il y a une famille de tradition pour la lutte et pour, en tout cas, la lutte, l'ouverture vers la justice, l'équité et la liberté. Wole, c'est ce que Deleuze aurait appelé un personnage romantique et conceptuel, c'est-à-dire qu'il est tellement chargé d'affect, de sentiments, et en même temps développe ces grandes idées qui font qu'il pense toujours à l'émancipation des peuples. Et donc tout ce qu'il dit est absolument vrai. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce qui manque à l'élite, je n'allais pas dire qu'aux dirigeants politiques, mais à l'élite, y compris intellectuelle, c'est qu'est-ce que je vais léguer à ma nation, qu'est-ce que je vais léguer à mon peuple, qu'est-ce que je vais léguer à l'Afrique. Et donc, je crois que beaucoup ne réfléchissent pas là-dessus. En fait, comment marquer l'histoire ? Parce qu'aujourd'hui, être Je pense que Idi Amin, qu'il a cité, de l'Ouganda, aujourd'hui, c'est pas l'histoire fait que ce nom-là n'est pas facile à porter.
Bien sûr.
Et donc, je crois que les chefs d'État doivent penser leur rôle vis-à-vis de l'histoire. Et de toute façon, on ne peut pas diriger un pays quand on ne l'aime pas. Ce n'est pas possible. Il faut aimer son peuple pour pouvoir le diriger normalement et faire des choses.
En même temps, Lamine, vous avez beaucoup travaillé hein, sur toutes ces questions. Alors, non seulement économiques, mais sur les questions de mondialisation, de pauvreté, d'exclusion. Comment faire pour que justement ça saute aux yeux aujourd'hui? Cette épidémie se fait révélateur, pas seulement sur le continent, hein, mais des terribles inégalités insupportables. Mais comment faire pour que ça remonte, pour qu'on se rendre compte et pour qu'on fasse autrement? C'est ça la grande question.
Oui, je pense que la grande question, vous avez bien raison, c'est de vérifier, de revoir, de faire l'inventaire en fait. L'inventaire, parce que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui ont été dites par beaucoup d'auteurs dans le monde. Je veux dire, en France, il y avait Serge Latouche qui parlait de décroissance depuis très longtemps. Il y a énormément d'intellectuels qui savaient que le capitalisme, là, il est fou. Et il ne peut conduire qu'à cette situation-là. Mais ce qui est important, c'est d'abord faire cet inventaire-là, en tout cas pour l'Afrique, l'inventaire, parce qu'aujourd'hui, même moi, vous m'avez mis dans les penseurs, mais je ne suis pas un penseur, je veux dire, les penseurs, il y a très peu. Les penseurs, vraiment, c'est ceux qui, aujourd'hui, dès lors qu'on dit leur nom, on sait qu'il y a une pensée qui se dit. Chaque Kanté Diop, on dit, on sait qu'il y a une pensée. Amadou Matambo, on dit son nom, on sait qu'il y a une pensée. Chaque Amadou Kan, on dit son nom, on sait qu'il y a une pensée. Et donc, faire l'inventaire de ce qu'il appelle de stock de connaissances, et à partir de là, essayer de voir comment on peut donc repartir debout. Parce que, par exemple, la question de la pandémie, là, là, il faut réfléchir du point de vue de l'Afrique, pas du point de vue africain, mais du point de vue de l'Afrique. Par exemple, on sait que la maladie en Afrique ne touche pas que le corps individuel. C'est aussi le corps social. Et donc, à chaque fois qu'un être humain est malade en Afrique, c'est tout le groupe qui est malade. D'ailleurs, on le voit dans les hôpitaux, les gens accompagnent, ils dorment peut-être même dans les vérandas, ils accompagnent le malade. Et donc, même aujourd'hui, les actes de barrières...
Les gestes barrières. Je pense qu'on a un peu perdu la liaison de la Minsania, pourtant je trouvais ça absolument passionnant. Il y a Hugo qui est en train d'essayer de le rappeler. Bien. On vous a récupéré parce qu'on vous avait un petit peu perdu. Oui, vous êtes là, Lamine, depuis Yola au Nigeria.
Je suis là.
On vous avait perdu, on était sur les gestes barrières et vous disiez justement, il y a une manière du point de vue africain de voir la maladie en tant que le corps social, hein, pas seulement le corps individuel.
Oui. C'est ça. Et je parlais des gestes barrières. Par exemple, on parle de lavage de mains. Mais c'est le même principe qu'on trouve que lorsque quelqu'un va voir le marabout, il fait avec de l'eau bénite qu'il se lave. Lorsque, par exemple, on dit que ce virus, il est invisible. Et en plus, il se trouve que ça se transmet par l'air. Mais dans ma langue mandingue, la maladie, souvent, on dit fonio, le vent, l'air. Et donc, c'est... À partir de ces réalités africaines-là, on sait qu'ils ont des ressources qu'ils peuvent mobiliser du point de vue de leur symbolisme, du point de vue de leur imaginaire, pour faire face à cette pandémie-là. Mais faire face à la pandémie, cela veut dire aussi qu'il faudrait réfléchir sur les possibilités que l'Afrique a. Et je fais juste un détour.
Bien sûr.
Il est extrêmement intéressant de voir aujourd'hui qu'au milieu des années 70, il y a trois courants du point de vue idéologique, ils sont presque sortis. Il y avait le courant social-démocratique qui s'est renforcé, il y a le courant maoïste aujourd'hui qui s'est renforcé, il y a le courant néolibéral. Aujourd'hui, on se trouve en finale entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, c'est le moment où le néolibéralisme prenait forme, il est devenu dominant. La Chine avait la théorie des trois bandes de Mao, c'est tout, où il pensait exactement ce que Deng Xiaoping a appliqué et ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Il pensait ça. Et en même temps, il y avait à cette époque le plan de Lagos, qui était pour un développement autonome, auto-centré et résilient. Et ce plan de Lagos a été évacué. Cela veut dire que les leaders africains n'ont pas confiance en leur population. Et jusqu'aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de travaux, il y a énormément de penseurs qui ont travaillé sur d'ailleurs les impensés en Afrique pour pouvoir sortir des crises comme celles que nous subissons à l'heure actuelle. Et donc, je pense que pour sortir, à la sortie de cette maladie, de cette pandémie, il est important que nous revisitions nous revisitions ce que nos aînés nous ont légué.
Et oui, c'est ça.
Je pense que...
Le revisiter, Lamine, je vous interromps, excusez-moi. Pour le continent, on a l'impression, ailleurs aussi, parce que tout ce que vous dites, même si vous parlez à partir du continent, ça résonne en nous aussi, c'est-à-dire que comment faire hein, on se pose la question sur toute la planète, et c'est pas pour rien si cette pandémie-là nous touche sur toute la planète. Je vais vous proposer de faire une petite pause musicale, mais celle de votre choix, Lamine Sania, et vous allez voir, c'est pas un hasard, hein, puisqu'on pense aussi aux plus vulnérables, à ceux qui souffrent sur la planète. Vous avez choisi de nous faire écouter un groupe que vous connaissez bien, que vous aimez bien et nous aussi, c'est Touré Kounda sur RFI, leur dernier album. Vous nous direz pourquoi ensuite, on l'écoute tout de suite. Touré Kounda sur RFI et le morceau s'appelle « Soif de liberté ».
Ziguin sort à mal, depuis longtemps qu'elle pleure, le cœur de la Casamance vit dans la douleur. La Casamance qui pleura mal depuis le temps qu'elle crie. Le cœur du Sénégal vit dans l'indifférence. Mais qu'a-t-elle donc fait de si mal pour endurer une telle souffrance? Pour une région idéale, tout le monde réclame une renaissance. Cette dame si généreuse qui a soif de liberté ne demande qu'à être heureuse, voir ses enfants unifiés.
Andekoya Casamance, Andekeba Kominde Kokimao, Olangwe Bungina Mabotae, Apatana Mileloe Sanganio, Bisoto Kolukase Kimi.
De noir je suis vêtu pour vous réconcilier. Je n'attends que d'être ému en vous écoutant chanter. De noir je serai vêtu pour vous réconcilier. Je n'attends que d'être ému en vous voyant danser.
Soif de liberté, morceau de circonstance, signé Touré Kounda sur RFI, choisi par le sociologue, anthropologue, économiste et philosophe Lamine Sania, en direct par téléphone avec nous depuis Yola au Nigeria. C'est pas par hasard hein, si vous avez choisi ce groupe et ce morceau qui colle si bien à cette lettre ouverte que vous avez co-signée pour appeler les dirigeants africains à gouverner avec compassion, Lamine Sania.
Oui, effectivement, mais juste je voulais signaler en plus, c'est que je ne suis pas économiste, mais sociologue de l'économie.
D'accord.
Je ne suis pas économiste. Mais ouais, le groupe Touré Kounda me ramène vraiment à ma Casamance natale, mais aussi à cette forme de sociabilité que nous avions l'habitude de vivre, où ce que disait Wole Soyinka d'ailleurs, où le voisinage était aussi important. Nous, gamins, nous étions éduqués non seulement par nos parents, mais aussi par les voisins, et c'était très important, cette socialité-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour cela aussi la réflexion sur cette pandémie est très importante en Afrique, puisque cette pandémie coupe les formes de socialité.
Absolument, alors absolument. Absolument. Alors que mais oui, ça pose toutes ces questions-là, évidemment sur le continent, évidemment partout dans le monde entier. Lionel Zevounou, j'ai envie de vous faire réagir un peu parce que vous êtes l'un des initiateurs hein, de cette formidable lettre ouverte aux dirigeants africains qui nous réveille tous et qui parle de compassion pour les plus vulnérables et qui parle d'aller au-delà de l'état d'urgence.
Je pense, et pour revenir à ce que disait Wole Soyinka, qui est très poignant, qui est très fort, au moment où nous parlons, le Chatham House au Royaume-Uni, la London School of Economics aussi au Royaume-Uni, et le Quai d'Orsay réfléchissent pour les Africains à l'ordre international nouveau qui va intervenir après cette crise du Covid. C'est quand même symptomatique et en même temps, me semble-t-il, assez dramatique pour nous et pour ce qui est en train de se jouer. D'où cette lettre qui était aussi un cri du cœur, un cri appelant à notre dignité et une dignité qui passe aussi par une prise en main des peuples africains par eux-mêmes. Et je pense que c'est important de rappeler ça et de faire écho à ce que disait tout à l'heure l'immense Wole Soyinka. Pendant que nous sommes en train de parler à l'instant, d'autres institutions pensent pour nous le nouvel ordre international du continent. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, cette interpellation, me semble-t-il, ne doit pas tomber dans le vide, ne doit pas être lettre morte. Parce que si nous ne pensons pas nous-mêmes la place du continent dans le monde, personne ne le fera pour nous. Et je pense que c'est hyper important de retenir ça.
C'est important, d'autant qu'il y a de quoi. Hein. Il y a des penseurs, même si Lamine aurait vu de ce nom pour lui-même ou vous. Enfin, vraiment, il y a des penseurs, il y a des chercheurs, il y a de quoi faire. Et effectivement, pourquoi se laisser gouverner par d'autres? Il faut apprendre à gouverner avec compassion. J'ai envie justement de vous faire réentendre la voix, la parole de Wole Soyinka, qui lui-même a pas mal partagé son temps hein, entre le Nigeria et les États-Unis, où il a vécu, travaillé, écrit, enseigné, jusqu'à l'élection de Donald Trump. Car le jour même de l'élection de Trump, il a décidé, Wole Soyinka, de déchirer sa carte verte, son permis de résident permanent aux États-Unis, ce qui a d'ailleurs fait scandale. C'était ce qu'il souhaitait, je pense, signifier en rentrant au Nigeria. Un geste fort qu'il ne regrette évidemment pas, comme il nous l'a expliqué pendant notre entretien, où je lui demandais précisément si cet appel des intellectuels africains ou gouvernants africains ne pourraient pas aussi s'adresser, s'appliquer à d'autres dirigeants dans le monde, si cette épidémie ne révélait pas aussi toutes les terribles incuries, le fait aussi qu'on pense à la place d'eux, et puis le fait que pourquoi est-ce qu'on n'écouterait plus certains dirigeants que d'autres, surtout quand on pense aux aberrations et aux contradictoires déclarations du président des États-Unis.
Yeah, I'm very happy that phenomena, negative phenomena like Donald Trump is also evident.
Je suis très heureux qu'un phénomène négatif comme Donald Trump apparaisse avec autant d'évidence à travers le globe pour que nous puissions voir que nous avons toujours le choix. Nous pouvons choisir toujours quel exemple nous voulons suivre.
The United States, under this dog, has proven itself to be a giant.
Les États-Unis ont prouvé qu'ils étaient un colosse aux pieds d'argile à cause de leurs dirigeants. Pouvez-vous imaginer en ce moment n'importe quel autre dirigeant annoncer qu'il va retirer ses fonds d'une organisation internationale dédiée à l'éradication d'une épidémie comme celle d'aujourd'hui et qui vise plus généralement au bien-être des êtres humains? Je me demande parfois, Trump est-il vraiment un être humain? Est-ce qu'il fait partie de votre humanité et de la mienne? Est-ce qu'on peut envisager, alors qu'on occupe cette position de pouvoir à un tel moment critique, de retirer ses fonds d'une organisation internationale? Cet homme, je ne sais pas de quelle planète il vient, mais cette question a vite été évidente pour moi. Dès le moment où il s'est lancé dans la course au pouvoir, quand il a annoncé vouloir bâtir un mur au travers des États-Unis, quand il s'est mis à insulter de façon très raciste d'autres nations, d'autres gens, pour plaire aux instincts les plus primitifs et arriérés de sa propre société, à leur idéologie de suprématie raciste, c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Et puisque vous revenez sur le fait que j'ai déchiré ma green card, mon permis de résidence permanente aux États-Unis, oui, quand j'ai vu cet homme, quand j'ai écouté ce qu'il avait à dire, j'ai été horrifié. C'est ça l'aspect le plus important. J'ai été horrifié par le fait qu'il avait des partisans. Alors que je me suis dit à moi-même, l'Amérique n'est pas encore libérée, l'Amérique n'est pas encore civilisée. Elle n'est pas au clair avec son passé esclavagiste. Elle n'est pas pleinement intégrée dans la communauté mondiale. Et je me suis dit, si cet homme est élu, je vais me retirer de cette communauté par un acte symbolique, celui de découper ma green card. C'était aussi élémentaire que ça. Pour moi, ce n'était pas un problème, pas du tout. Mais vous voyez, il a prouvé qu'il était encore pire que ce que je pensais, bien, bien pire. Et donc, c'est à nous, sur le continent africain, de savoir que nous ne pouvons pas nous inspirer de ce type de dirigeants, que nous ne pouvons pas chercher de l'aide dans cette direction. Nous ferions mieux de nous réunir, de considérer nos ressources propres, d'arrêter d'être des mendiants aux portes d'autres nations et de voir comment on peut reconstruire notre propre humanité, à la fois l'humanité physique, mais aussi l'humanité non palpable, toute notre humanité, composée de toutes les idées, toutes les philosophies.
That's why, to some extent, I agree with you when you use expression, yes, how can we...
C'est pourquoi je suis d'accord avec l'expression « façon de faire africaine ». Mais nous devons être sélectifs et nous devons savoir que cette expression a été largement dévoyée par certains dirigeants.
Wole Soyinka, merci. Que dire, qu'ajouter à ces propos tellement inspirants, et puis Wole Soyinka ne mâche pas ses mots à 86 ans comme il ne l'a jamais fait dans sa vie. J'ai envie, oui, Lamine Sagna, je vous entends rire hein, depuis Yola au Nigeria.
Oui, non mais ça m'étonne pas, Wole, il a complètement raison, c'est-à-dire comme le dit Cornel West, Trump est une catastrophe néolibérale, ça m'étonne pas. Disons que son acte symbolique est vraiment fort, parce que, comme vous le savez, le symbolique est des fois plus réel que le réel, mm-hmm. Et de ce point de vue, il a bien raison de montrer ça, parce que ça fait du bruit, vous avez vu, tout le monde en a parlé, y compris dans les hautes sphères des États-Unis. Mais ce que Wole dit surtout, c'est quand, pour penser africain, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a énormément de penseurs africains qui ont réfléchi et dont les travaux, on n'en parle même pas, par exemple en France. Je me rappelle aux États-Unis, dans mon université, j'avais appris par un scientifique, qui donnait des cours sur un architecte sénégalais. On donnait des cours, cet architecte sénégalais, je l'ai découvert après au Sénégal, qui s'appelle Mbakenya, et on donnait des cours sur lui.
Il fallait passer par les États-Unis.
Pour les États-Unis, il n'est pas enseigné au Sénégal. Et saviez-vous que, par exemple, Cheikh Anta Diop n'est pas enseigné au Sénégal ? L'université porte son nom. Voilà, des questions comme ça. Vous avez des gens comme Enda Tchermon avec Emmanuel Dion qui ont fait de ces travaux, si vous les lisez, vous direz que ce n'est pas possible. Et qui ont bien réfléchi non seulement des concepts qu'ils ont appris à l'Occident, mais comment pouvoir l'appliquer dans la réalité africaine. Et c'est de cela dont parle Wole quand il dit cette pensée africaine-là. Mais en réalité, parce que ce soit Wole ou moi ou quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas ethnocentrés. Nous savons bien que le savoir, ça se cherche partout. Il y a des correspondances. Moi, la plupart de mes maîtres, certains sont en train de m'écouter à Paris, ils sont des grands
philosophes,
Morin,
par
des grands
exemple.
Sociologues. Edgar Morin, Patrice Vermeren, Stéphane Doyer, tous ces gens-là, de façon africaine. Récemment, j'ai travaillé sur un philosophe sénégalais qui s'appelle Abdoulaye Elimane Kane, qui a parlé des dénombrements. C'était intéressant, mais c'est extraordinaire ce qu'on peut faire là-dessus. C'est un philosophe qui a travaillé sur le dénombrement, c'est-à-dire pourquoi, dans certaines langues sénégalaises, à partir de 5, on fait 5 plus 1 pour dire 6. Mmh. Alors que dans d'autres langues comme la mienne, on a un nom propre. On a un nom propre pour dire 6, 7, 8, jusqu'à 10. Pourquoi donc certains groupes en Afrique ont comme base 5, d'autres ont comme base pour 10. À la conclusion, il arrive que le mot 20, ça signifie l'homme à peu près dans toutes ces langues-là, et, ou bien des fois le roi. Et donc 20, c'est quoi ? 20, c'est 10 orteils. Les 10 orteils et les 10 doigts de la main. C'est ça qui fait l'être humain, les 20. Et donc, en travaillant avec un mathématicien, il m'a fait comprendre que la combinatoire de 20 est tellement énorme qu'à partir de 20, on sort du cadre de l'humanisme pratiquement. On rentre dans d'autres cycles. C'est pour cela que, par exemple, il y a des travaux, il y a beaucoup de spiritualité qui commence à partir de 20, etc. Mais c'est extraordinaire. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si on ne réfléchit pas sur les bases, ces bases-là, par exemple, si on réfléchissait là-dessus, on aurait pu penser la comptabilité et beaucoup d'autres choses. Et c'est pour cela qu'on ne comprend pas le secteur informel. Voilà, voyez-vous. Donc, il y a énormément de pensées en Afrique qu'on n'exploite pas.
À creuser.
Des penseurs africains.
On pensait à creuser. Et j'ai envie de faire intervenir Lionel Zevounou parce que c'est exactement ce que vous disiez. Vous disiez, attention, on est en train de penser, même la sortie de crise, alors on n'y est pas encore, hein, on est en plein dans la crise du Covid-19, on est en train de penser la sortie de crise africaine, mais ailleurs, hors du continent et hors sol et hors contexte et à partir de références qui sont, effectivement, vous l'avez dit, c'est en Angleterre, c'est aux États-Unis, c'est en France, c'est ailleurs qu'on pense le continent. Alors qu'il y a de quoi penser le continent depuis le continent et penser le monde aussi depuis le continent, sans être ethno-afro-centré, hein, c'est pas ça, Lionel Zevounou.
Oui, je pense. Bon, et bien sûr, il existe des centres de recherche sur le continent, hein, il y en a. Ce qui manque, c'est les liens panafricains. Il manque véritablement une initiative panafricaine qui rassemble les universitaires en sciences sociales du continent pour évoquer cette complexité du social dont parlait tout à l'heure à l'instant l'ami Sania. C'est hyper important, c'est fondamental. On ne peut pas tout le temps, me semble-t-il, évoquer l'Afrique par rapport à ce qu'elle sera. Mmh. Il faut, pour dire ce qu'elle sera, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est dans sa complexité et dans sa diversité de pensée. Et je crois qu'une institution comme l'Union africaine, mais étrange, mais je crois que ça existe certainement, mais en tout cas l'initiative n'est pas, à mon avis, suffisamment d'ampleur. Je suis un peu étonné que l'Union africaine ne se dote pas d'un centre stratégique qui rassemble justement les pensées du continent et de la diaspora. Sinon, nous, à mon avis, nous ne parviendrons à pas grand-chose. Et comme on l'a dit dans le texte, la bataille de la seconde étape pour la décolonisation, c'est une bataille de la pensée.
Une bataille de la pensée. Lamine Sania, je crois que vous voulez aussi intervenir depuis
oui, Yola au Nigeria. Lionel, je vous coupe pas, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que c'est ce que Boris Diop et Dramane Traoré, Aminata Traoré, parlaient de la gloire des imposteurs. Ils ne veulent pas entendre, ils ne cherchent pas à écouter parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Or, on ne peut pas sortir du développement si on n'a pas confiance en soi-même et aux autres. Et le problème fondamental des pays africains que pointe en sourdine Wole Soyinka, c'est le manque de confiance. Mm-hmm. Donc tout ce qui peut faire la légitimité d'un pouvoir, et c'est ça. Et en réalité, c'est souvent par un complexe d'infériorité. C'est vrai que certains, il y en a quelques-uns, une exception, et c'est vrai que on sait bien, on n'est pas naïf, hein, on sait bien que des fois, quand ils veulent l'intérêt de l'Afrique, ça confronte d'autres intérêts et on ne peut pas passer par des coups d'État extra. Nous le savons, mais quand même, il faut avoir du courage pour pouvoir gérer, faire appel à ses concitoyens.
Il faut avoir du courage pour faire quoi ? Pour faire l'African Carnaval. On ne pouvait pas faire cette émission sans rendre un hommage à Manu Dibango qui nous a quittés, victime du Covid-19. Allez, il nous entraîne tout de suite dans son African Carnaval. African Carnaval de Manu Dibango sur RFI et sur toutes les bonnes ondes de la Terre. C'est le meilleur qu'on puisse se souhaiter. Autour de la question, on arrive à la fin de cette émission, autour de la question pourquoi écouter Wole Soyinka et tous les penseurs, tous les chercheurs, chercheuses du continent qui réfléchissent à partir du continent, autour du continent, pour le continent mais aussi pour la Terre entière. Wole Soyinka nous a tout de même laissé un petit message. Alors, personnel pour vous, Lamine Sania, mais pas seulement, parce que je pense qu'il est aussi destiné à Lionel Zevounou, on l'écoute.
Just to say, you picked up the baton, just please keep moving and we are going to be directly behind you.
Et oui, c'est vous qui avez initié tout ça. Hein. Je traduis très rapidement, Wole Soyinka. C'est tous les deux qui avez pris le bâton et nous sommes tous derrière vous. On a envie d'être tous derrière vous, Lamine Sania et Lionel Zevounou, parce que vous réveillez un peu nos consciences, hein, celles des dirigeants africains, mais les nôtres aussi. Je vous demandais de conclure à tous les deux. Qui veut conclure ? Allez, Lionel.
C'est extrêmement difficile de conclure, mais en tout cas, je fais le vœu qu'il puisse y avoir un espace où puissent s'exprimer enfin les intellectuels du continent sur les problématiques du continent, sans que les dirigeants aient l'impression qu'il s'agit de concurrencer leur pouvoir. La question va au-delà de leur petit pouvoir. Mmh. La question, elle est existentielle pour l'ensemble des peuples africains. Les hommes passent, mais les institutions restent. Et il nous faut laisser une trace pour améliorer nos institutions. Voilà, je pense que c'est le plus important que je voulais dire.
Merci Lionel Zevounou, merci Lamine Sania. Un mot de conclusion, allez.
Oui, disons que oui, nous allons. Il faudrait qu'il compte sur nous, le passeur Wole Soyinka, et avec tant d'autres que nous aimons aussi bien, qui nous ont légué beaucoup de choses, et nous pensons continuer leur œuvre. Et dans tous les cas, vous avez bien fait de faire en même temps, en passant par la musique de Manu Dibango, avec qui je. Lors de notre entretien, il m'a beaucoup aidé à comprendre le contretemps sur lequel je travaille. Et donc, voilà des figures importantes pour nous. Nous allons continuer leurs œuvres et nous allons faire ce que nous pouvons et nous allons aussi passer. Nous sommes aussi des passeurs comme eux. En tout cas, c'est quelque chose que nous essayons de faire pour le bien de l'Afrique. Ce n'est ni contre une personne ou contre... c'est juste que c'est des idéaux importants pour le bénéfice des peuples africains.
Merci infiniment, Lamine Sania. Moi, j'aimerais bien vous recevoir à nouveau pour entendre cette théorie du contretemps. Ça m'intéresse. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été en direct avec nous. Alors, Lamine Sania depuis le Nigeria, par téléphone. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Lamine Sania, est disponible en anglais et en français aux éditions Karan, Violence, racisme et religion en Amérique du Nord, en Amérique, autour de la pensée rebelle de Cornel West. Je cite le titre anglais parce qu'il est joli et à double sens. Cornel Matters. Et oui, Black Matters est pour tout le monde. Merci infiniment, Lionel Zevounou, d'avoir été en direct avec nous. Et je vous renvoie, chers amis auditeurs, sur cette lettre ouverte collective à lire absolument en français, en anglais, dans la langue que vous voulez. Merci d'avoir été sur notre antenne. Merci de votre curiosité. Merci de tous vos messages, chers amis auditeurs. Dans quelques instants, c'est l'heure du prochain journal sur RFI.